Tout le monde va bien ? Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ce verre d'eau. Merci parce que, encore une fois, tout appartient. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour entendre ta voix. Nous sommes là, Seigneur, pour être un peu plus, en sortant de ce lieu, à la ressemblance de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos oreilles spirituelles, d'ouvrir nos yeux, mettre un collier dans nos yeux dont nous avons tant besoin, Seigneur, afin que ta gloire resplendisse en nous et au travers de nous et de ceux que nous allons rencontrer. Amen. Je vous invite à lire dans Jérémie, au chapitre 29, à partir du verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous aurai chassé, où je vous ai chassé, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Combien de fois ne nous nous sommes pas dit cette année, en tout cas depuis le mois de janvier, ok, allez, cette année ce sera différent. On est bientôt à la moitié de l'année. Cette année ce sera différent, et puis deux semaines après, quelques mois après, tout est redevenu comme avant. Rien n'a changé. Comment peut-on faire pour avoir des changements permanents dans notre vie? C'est ce que je voudrais que nous étudions comme question ce matin au regard de ce que le Seigneur nous dit. Qu'est-ce qui peut nous aider dans notre vie pour que ces changements durables puissent avoir lieu? On vient de le lire, Dieu a des projets de bonheur et pas de malheur. Dieu a un projet, il a un objectif pour chacun de nous. Et se fixer des objectifs peut nous permettre d'avoir un but dans notre vie, d'avoir des changements durables. La parole de Dieu nous parle de points importants sur ce sujet. Se fixer un objectif, c'est une discipline spirituelle. C'est bien plus que d'avoir juste une bonne idée. Ah, au fait, j'ai une idée, je pourrais faire ça. C'est une discipline comme la prière, comme entretenir sa relation avec Dieu. Entretenir sa relation avec Dieu, c'est une discipline. Nous pouvons gaspiller notre temps et notre vie, mais nous pouvons aussi investir notre vie pour la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a trois sortes de gens. Ceux qui font que les choses se produisent, ceux qui regardent les choses se produire, et ceux qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Il y a ceux qui critiquent tout le temps ce qui se fait, mais qui ne font jamais rien. C'est le pire des trois sortes de gens, en fait. Parce qu'ils empêchent les autres d'essayer de faire quelque chose dans leur vie. Se fixer des objectifs, frères et sœurs. Dieu lui-même fixe des objectifs. Peut-être que nous ne le réalisons pas forcément, mais le Seigneur a des projets pour l'humanité. Certains ne se sont pas encore produits. Dieu a des projets pour son Église. Dieu a des projets pour chacune de nos vies. Le Seigneur est un planificateur et il veut que nous fixions également des objectifs pour nos vies, que nous ayons des projets, parce qu'il veut que nous soyons comme lui. C'est assez surprenant, j'étais, vous savez, la journée défense et citoyenneté, vous connaissez les jeunes qui sont appelés, alors aujourd'hui c'est une demi-journée par an, avant c'était une journée où on leur parle de plein de choses, de la défense, etc. Et Au début de cette journée, on pose des questions histoire de briser la glace pour mettre les gens à l'aise. D'où vous venez? Quel est votre prénom? Et qu'est-ce que vous avez comme projet dans votre vie? Donc ce sont des jeunes qui ont entre 18 et peut-être un petit peu plus, même avant 18 ans. 16 ans, merci. Et j'étais surpris de voir combien de jeunes ont des projets et surtout combien n'en ont pas. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je ne sais pas, c'est assez surprenant quand même. Dieu veut que nous ayons des projets. Éphésiens 1 et verset 10 nous dit « Ce projet que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. » C'est un projet de Dieu qui n'est pas encore accompli, qui est en train de s'accomplir. On pourrait réfléchir comme cela. Ok, je ne vais rien planifier, mais juste faire confiance au Seigneur et me laisser guider au gré du vent. Ça n'a pas grand-chose de spirituel. La Bible dit que Dieu fait des projets et nous sommes appelés à faire de même. Nous ne devrions pas envisager les 10 prochaines années, frères et sœurs, sans avoir planifié quelque chose, sans s'être fixé quelques objectifs. Dieu a projeté de rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, Jésus-Christ. Se fixer des projets va mobiliser notre énergie. 1 Corinthiens 9, 26. « Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, disait l'apôtre Paul, je frappe, non pas comme battant l'air. » Combien de gens connaissons-nous qui tournent en rond en brassant de l'air? On en connaît tous. Ici, oui, merci, et ça nous arrive parfois. Ici, l'apôtre Paul nous dit qu'il mobilise son énergie à l'accomplissement de la mission que le Seigneur lui a donnée, qui est celle d'annoncer l'Évangile. Il dit « Je cours vers le but en vue de remporter la victoire. » Frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas que nous tournions en rond. Il ne veut pas qu'on frappe l'air sans jamais faire mouche. Paul dit « Je fais tout à cause de l'Évangile. » Seigneur a un but et un objectif sur lequel, enfin là en tout cas, l'apôtre Paul avait un but et un objectif sur lequel il se concentre. Nous devons nous concentrer sur l'objectif. Alors ça peut paraître très militaire, hein, se concentrer sur l'objectif. Mais quelque part, est-ce qu'on a le temps de tout faire? On est tellement sollicité aujourd'hui dans notre vie, dans notre société, par tant de choses. Et je vous avoue que moi-même, j'ai du mal parfois. J'ai combien de livres en ce moment, je me tourne vers ma meilleure moitié? Plein. Combien de livres en ouvert et que je n'ai encore pas terminé? Parce que j'ai envie de tout faire. Mais concentrons-nous sur un objectif ou quelques-uns. Mais ne gaspillons pas notre temps comme pour battre l'air. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur n'attend pas que nous fassions tout. Ah, merci Seigneur. Parce que toutes choses n'ont pas la même priorité. Dans le monde du travail, souvent tout est prioritaire. Quand tout est priorité, il n'y a plus de priorité. De plus en plus de gens ont du mal à faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. Ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est urgent, en général, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Ce qui est urgent prend souvent le pas sur ce qui est important. Je n'ai pas retrouvé cette citation d'un évangéliste très connu qui disait « J'ai une somme de travail énorme qui m'attend aujourd'hui, mais d'abord, je vais passer du temps dans la prière. » Peut-être que Jean, ça ne dit rien. Il faut que je retrouve. Quelles sont les priorités? Passer du temps avec Dieu. Passer du temps avec sa famille. Ce qui est urgent nous pousse chaque fois à passer à côté de ce qui est important. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Une fuite d'eau à la maison, il y a quand même un certain degré d'urgence qu'il faut absolument régler tout de suite. Ce qui est urgent ne veut pas dire systématiquement que c'est le plus important à faire. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi, dit Paul aux Galates au chapitre 6 et au verset 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ça, c'est une urgence, une priorité. Ne perdons pas notre temps dans les choses sans importance. Après, à chacun de discerner, hein. C'est ce que je vous appelle à faire ce matin. Nous avons besoin de discerner dans notre vie ce qui compte le plus de ce qui est futile. Et le secret pour que notre vie compte est de se concentrer sur les objectifs précis. N'essayons pas de faire 36 choses en même temps, et je me le dis d'abord à moi. Concentrons-nous sur ce qui est important en laissant les autres choses à plus tard. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous là, ce matin ? Se fixer des objectifs, donc, va mobiliser mon énergie et me concentrer sur quelque chose de précis. Se fixer des objectifs va fortifier ma foi. Suivre les objectifs que le Seigneur a donnés. Dieu vous a donné des objectifs. Vous les avez dans votre cœur. Suivre ces objectifs nous montre que nous lui faisons confiance. Quand je dis « je crois que Dieu est capable d'accomplir ceci ou cela dans ma vie », c'est une déclaration de foi. Les bonnes intentions sont une bonne chose, mais la détermination à accomplir ce qu'on a l'intention de faire, de ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, est encore bien meilleure. Beaucoup ont de bonnes intentions, et c'est bien, mais beaucoup en restent là. Mais avoir un objectif, c'est avoir une bonne intention, mais avec une deadline, ce qu'on appelle une date limite, une échéance. Matthieu 9, 29 nous dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Si nous pouvons tout faire avec nos propres forces, nous n'aurions pas besoin de foi. Vous êtes d'accord avec ça ? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est attendre de Dieu dans une dépendance complète. Peut-être pouvons-nous nous fixer ce défi ce matin de rêver de grands rêves pour le Seigneur et de se fixer des échéances. Romains 14, 23 nous dit « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Ça, c'est dans la version Louis II. Et dans la version Sommer, c'est intéressant, celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Comment savons-nous que nous mettons notre foi en pratique dans notre vie ? C'est lorsque nous prenons des risques. Se fixer des objectifs va concentrer notre attention sur ce que nous avons prévu, va fortifier notre foi et va construire notre caractère. Le plus grand bénéfice dans le fait d'avoir des objectifs, ce n'est pas forcément de les accomplir, bien qu'on en retire une satisfaction, mais davantage en ce qu'ils construisent notre caractère. C'est ce qu'ils nous font devenir, c'est ce qu'ils produisent en nous. Je pense qu'on a tous en tête un de ces films où on a un héros, qui n'est pas un héros dès le départ, qui va traverser tout un tas de difficultés, qui va échouer. Et c'est en traversant ces difficultés qu'on voit son caractère se modifie, se fortifie. On doit affronter nous-mêmes toutes sortes d'obstacles en même temps que nous le voyons gagner des batailles, ce héros, les unes après les autres. Son caractère change et le Seigneur, tel le potier, façonne notre caractère au travers de ce que nous traversons dans nos vies. Amen. Ce que nous sommes aujourd'hui a été façonné par toutes les difficultés que nous avons surmontées grâce à Dieu et qui nous ont forgés et qui ont forgé notre personnalité. Pendant que nous travaillons à l'atteinte des objectifs que le Seigneur nous a fixés, le Seigneur travaille en nous. L'apôtre Paul avait bien compris en écrivant que notre objectif était de parvenir à la stature parfaite de Christ, on l'a dit tout à l'heure. Mais cela ne se fait pas en un jour. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que je l'ai atteint, ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, verset 12. Quel est le but de notre vie? Quel est le but de votre vie, frères et sœurs? Le premier but que Dieu a pour chacun de nous, c'est que nous devenions comme Jésus-Christ, comme son Fils. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, Éphésiens 4, 13. Le Seigneur veut que nous mûrissions notre caractère, que nous répondions le mieux aux circonstances de la vie, de la même manière que le Seigneur Jésus répondait lui-même aux problèmes, aux difficultés, aux tribulations, aux épreuves. Le Seigneur veut que nous sachions gérer les critiques, pas facile, hein, que nous sachions gérer les attaques de nos ennemis, et c'est pas contre la chair et le sang qu'on a à se battre, vous le savez, que nous sachions être attentifs aux besoins des autres, que nous sachions aimer les autres, que nous sachions aimer aussi ceux qui nous ont blessés. Aimez vos ennemis, nous dit-il. Le Seigneur veut que nous apprenions et que nous manifestions le fruit de l'Esprit. Tout le monde connaît Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Dieu veut que nous manifestions le fruit de l'Esprit. Amen. Ben, j'en suis loin, hein. J'ai encore du travail. Les objectifs renforcent notre foi. Nous avons besoin d'espérer dans notre vie. Vous êtes d'accord avec ça? Tous ceux qui ont vécu dans les camps de concentration et qui ont survécu pendant cette dernière guerre mondiale sont tous d'accord pour dire ce qui les a fait tenir, c'est qu'il y avait encore quelque chose à espérer. Ceux qui n'avaient aucune espérance ont abandonné et sont tout simplement morts. Mais ceux qui avaient encore une espérance avaient quelque chose à quoi se raccrocher pour survivre et combattre. La vie est dure. C'est pas à vous, je l'apprends. C'est un fait. On rencontre tous des difficultés ou la maladie. On ne sait pas de quoi seront faits les 10 prochaines années. On ne sait pas de quoi sera fait demain déjà. Mais quoi qu'il se passe, si nous gardons la foi, si nous avons la foi en Christ, nous savons que nous aurons la force de surmonter toutes les difficultés. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Ma force est-elle une force de pierre? Mon corps est-il d'airain? Ne suis-je pas sans ressources et le salut n'est-il pas loin de moi? Ce sont les mots de Job, chapitre 6. Job disait qu'il n'avait plus de raison d'aller plus loin, plus de raison de vivre. En tout cas, il disait à ce moment-là. Si nous n'avons pas de but dans notre vie, nous n'avons aucune raison de nous lever le matin. Quel est mon but pour mon mariage? Quel est mon objectif pour mon travail? Quelle est ma vision, mon objectif pour mes finances? Quelle est ma vision? Quel est mon objectif pour l'Église? Quel est mon objectif dans ma relation avec Dieu? Si nous n'avons pas de but, nous tournons en rond. Certains ont marché pendant 40 ans en tournant en rond, dans le désert en plus. Mais Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Nous connaissons tous des revers dans nos vies, mais je voudrais nous encourager ce matin à prendre du temps avec le Seigneur pour faire le point sur les projets et sur les buts que nous avons fixés ou que nous allons nous fixer. Pensez aux projets que le Seigneur a déjà mis dans notre cœur, dans votre cœur, qui sont encore au stade embryonnaire, dans lequel on hésite parfois à rentrer. Quelle sorte de projet le Seigneur peut-il bénir ? Quels sont ceux qui sont dans sa volonté ? C'est une vraie question. Car nous sommes tous préoccupés, n'est-ce pas, à faire la volonté de Dieu. Premièrement, des projets qui glorifient le Seigneur. 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. » Quoi que nous fassions, nous pouvons le faire pour glorifier le Seigneur, si nous le faisons avec la bonne attitude, qui est celle de glorifier Dieu, avec un esprit de reconnaissance et de la bonne motivation. Je peux faire la vaisselle en glorifiant Dieu. Si, 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 si. Oh là, faire la vaisselle, quelle galère. Enfin, on a la vaisselle, mais il y a quand même des casseroles à laver. Hein. Seigneur, merci. Parce que si cette vaisselle est sale, c'est que j'ai pu mettre de la nourriture dedans. Et si j'ai pu mettre de la nourriture, c'est à toi que je le dois. Merci, Seigneur, de me permettre de manger chaque jour. Et donc, je fais la vaisselle en glorifiant Dieu. Tout objectif qui incitera à aimer le Seigneur davantage sera un objectif qui glorifiera le Seigneur. Le Seigneur ne bénira pas les projets qui sont motivés par l'orgueil, par l'envie, par la jalousie ou l'égoïsme. Il n'y a aucune raison que le Seigneur bénisse ce genre de projet, mais il est davantage intéressé par la motivation qui nous pousse à agir de telle ou telle façon. Quelle est la motivation ? Si ce que j'envisage de faire est motivé par l'amour pour les autres, je peux être sûr que le Seigneur approuvera. Tout ce que nous faisons doit être motivé par l'amour. Le Seigneur nous a placés sur cette terre pour apprendre à aimer. À l'aimer lui et à aimer les autres. Et ça aussi, c'est un défi. Comment aimer celui qui m'a fait du mal ? J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, disait l'apôtre Paul en Galates 2:20. Comment ne peut-on pas aimer le Seigneur quand on réalise ce qu'il a fait pour chacun de nous ? Comment ne peut-on pas aimer les autres quand on réalise combien le Seigneur Jésus a tant aimé le monde au point de lui offrir sa vie ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi je me souviens quand je suis né de nouveau. Mon regard a changé sur les autres de façon radicale. Les mendiants dans la rue, je ne les regardais plus de la même manière. Parce que le Seigneur nous permet aussi de voir au travers de ses yeux. Il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour l'humanité. Prions que le Seigneur nous donne son regard sur les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. 1 Jean 4:12. Si nous n'aimons pas les autres dans les projets que nous nous fixons, nous risquons de nous servir des autres pour accomplir nos projets et pas ceux de Dieu. Cherchez avant tout l'amour, dit 1 Corinthiens 14, verset 1. Cherchez avant tout l'amour. Des projets qui sont dans la volonté de Dieu, et j'ai bientôt terminé. Lorsque nous prions, est-ce que nous demandons au Seigneur de bénir nos projets ? Ou est-ce que nous lui demandons de nous faire entrer dans ses projets qu'il a pour chacun de nous ? afin qu'il les bénisse. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, 13. Nous sommes constamment encouragés par le Seigneur à suivre sa voie. Sa voie VOIE et sa voie VOIX dans tout ce que nous entreprenons. L'apôtre Paul, encore une fois, disait « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Frères et sœurs, si vous êtes là ce matin, c'est parce qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez été saisi par Jésus-Christ. Pour quel projet ? Dieu ne nous a pas donné les mêmes choses à faire à chacun. Son corps, un œil, une oreille, un pied, chacun sa fonction. Quel est le projet que Dieu a mis dans votre cœur ? Rien ne pouvait distraire l'apôtre Paul dans la course qu'il courait pour le Seigneur. Il ne se laissait déconcentrer par rien, mais il gardait les yeux fixés sur l'objectif que Dieu lui avait fixé. Nous ne sommes pas dans une course semblable à un 100 mètres qu'il faut que nous réalisions en quelques secondes. Mais nous sommes dans un marathon que le Seigneur veut que nous finissions. Nous devons, frères et sœurs, travailler notre endurance en nous fixant des objectifs qui soient en accord avec la volonté de Dieu. Alors, je nous invite à entretenir notre relation avec lui pour connaître sa volonté, pour rester dans sa volonté, dans la prière. Je nous invite à entretenir notre relation avec les frères et sœurs dans l'Église qui nous aiment et qui veille sur nous, comme nous le faisons nous-mêmes pour les autres également, dans cette communion fraternelle. Alors remettons au Seigneur tout ce que nous avons dans le cœur de faire pour lui, et prions qu'il nous aide à discerner quels sont ses projets qu'il a mis dans chacun de vos cœurs. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton Église, merci pour ta présence, merci parce que tu es Dieu, Seigneur. Merci pour ce que tu as prévu pour chacun de nous. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix, Jésus, qui nous a réconciliés avec notre Père, avec lequel nous avons une relation avec toi, avec le Saint-Esprit également, par le Saint-Esprit. Merci de ce que tu as mis dans chacun des cœurs de mes frères et sœurs ici présents, et de tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, mais tu les connais, Seigneur, et tu es là avec eux. Merci pour tes projets de paix et de bonheur. Merci pour cette grâce qui coule de ton trône. Merci Seigneur parce que tu ne veux pas que chacun de nous perde du temps à battre l'air, mais conduit par ton esprit Seigneur, nous voulons accomplir ce que tu as prévu pour chacun de nous. Alors éclaire-nous Seigneur, parle-nous. Comme tu le dis dans l'Apocalypse, donne-nous ce collyre dont nous avons besoin, oint nos yeux du collyre pour voir comme tu vois, pour aimer comme tu aimes. Pour témoigner de ton amour à ce monde qui se perd, qui a tant besoin de toi. Seigneur, merci de bénir chacun de mes frères et sœurs. Merci de bénir cette église, Seigneur, dont tu es le chef, toi, Jésus, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Merci de bénir Jean, merci de bénir l'équipe pastorale, Seigneur. Bénir les anciens, bénir chacun des membres. Merci Seigneur pour tout ce que tu as prévu
que nous allons voir pour ta gloire. Amen.